Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Graphite. On continue les émissions du samedi avec Biotine, juste après VibraSOS. Biotine vous propose une revue de presse de l'actualité scientifique. Alors quelques articles un peu légers aujourd'hui, parce qu'il y a des moments où franchement il faut se faire plaisir aussi. Je m'appelle Jean-Noël, je suis très heureux de vous retrouver sur l'antenne de Graphite tous les samedis entre 12h et 13h sur la bande FM 94.9 pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise, la Somme, sur internet, hein, graphite.net bien évidemment, direct, différé, parce que tous les podcasts de toutes les émissions de Graphite sont aussi récupérables sur le site internet, ce qui vous permet de pouvoir nous écouter n'importe où, n'importe quand. N'hésitez pas à suivre toutes vos émissions préférées de cette radio curieuse qui est Graphite. J'ai encore un problème de voix ce samedi, ça va être compliqué, je sais pas, mais ça ne s'arrange pas. Quand on perd sa voix et qu'on fait de la radio, c'est quand même pas un exercice qui est vraiment approprié. Donc je vais essayer encore de tenir pour cette émission d'une heure. On va commencer avec l'éphéméride de ce 9 novembre. Le 9 novembre 1967, c'est le premier vol de la fusée Saturne V lors de la mission Apollo 4 du programme spatial Apollo. Nous sommes en 1967. On n'a encore pas le pas du premier homme sur la Lune, mais on y arrive hein, tout doucement. Apollo 4 en 1967. Et le 9 novembre 2005, c'est le lancement de la sonde Vénus Express de l'Agence spatiale européenne. Vénus Express. Oui, on en a très souvent parlé dans cette émission de Vénus Express. Naissance, le 9 novembre 1914 à Vienne, d'Hedwig Kiesler, qu'on appelle Hedy Lamarr, qui est une actrice, une productrice de cinéma. Alors pourquoi on parle de cinéma et d'actrice dans cette émission plutôt réservée à la science ? C'est que Hedy Lamarr est aussi une inventrice autrichienne. Elle a été naturalisée américaine et au cours de sa carrière cinématographique, elle joue sous la direction des plus grands réalisateurs, hein, Victor Fleming, Marc Allégré, Cecil B. DeMille, Clarence Brown. C'est une icône glamour du cinéma américain. Elle est désignée en son temps comme, je cite, la plus belle femme du cinéma, Hedy Lamarr. Mais ce qui est intéressant pour nous dans cette émission, c'est qu'en plus de sa carrière au cinéma, elle marque l'histoire scientifique des télécommunications en inventant avec le compositeur George Antheil, qui est un pianiste et qui est aussi inventeur comme elle, eh bien un moyen de coder des transmissions. Et elle contribue ainsi à l'effort de guerre des États-Unis. Il s'agit d'un principe de transmission fondamental en télécommunication qui est utilisé actuellement pour le positionnement par satellite et les liaisons chiffrées militaires, ou également dans le fonctionnement du Bluetooth. Et quelque part, on peut dire que le Bluetooth, c'est grâce à Hedy Lamarr, de son vrai nom Hedwig Kiesler, qui est donc née un 9 novembre 1914 à Vienne et elle est morte en l'an 2000 à Castleberry en Floride aux États-Unis parce qu'elle a été naturalisée américaine. Hedy Lamarr. Ce qui est intéressant dans son parcours, c'est que voilà, elle n'est pas une scientifique, elle n'est pas que scientifique. Et puis aussi, accessoirement, c'est quand même intéressant d'évoquer aussi les femmes dans les découvertes scientifiques et elles ont été nombreuses et c'est pas souvent le cas que nous l'évoquons dans cette émission. Donc c'était un double, comment dire, un double avantage, une double excuse, non c'est pas une excuse de parler d'Hedy Lamarr dans cette émission. Décès le 9 novembre 1981 de Franck-Joseph Malina, ingénieur en aéronautique. Il est peintre, il est connu pour avoir été un pionnier du monde de l'art et de l'ingénierie spatiale. Il est né au Texas, il est mort à Boulogne-Billancourt en France. Il entame des études d'ingénieur mécanicien à la Texas University en 1934 et l'année d'après en 1935, alors qu'il poursuit ses études toujours en Californie cette fois. Mais Malina persuade son professeur d'aéronautique Theodor von Karman de l'autoriser à poursuivre des recherches sur les fusées et leur système de propulsion. Son but était de développer une fusée sonde et en 1940, il obtient un doctorat justement dans cet institut de technologie de Californie, le Caltech, pour sa thèse portant sur la propulsion et la trajectoire des fusées en 1940. Franck-Joseph Malina, voilà, ingénieur en aéronautique, décédé un 9 novembre 1981. C'était donc l'éphéméride de cette émission et on va parler un petit peu de différents sujets. Alors, plutôt léger, mais pas tous. Il y a quand même toujours des articles qui nous ramènent à une certaine réalité, malheureusement. Et c'est le cas dans cet article de Futura qui parle de la NASA et du Soleil. Le Soleil qui vit au rythme d'un cycle qui dure environ 11 ans. En septembre 2020, la NASA avait annoncé le début de son cycle 25, l'activité du Soleil ayant connu un minimum l'année d'avant en 2019. Et le maximum de ce nouveau cycle qui a donc démarré en 2020, il est attendu pour le mois de juillet prochain, juillet 2025. Mais aujourd'hui, la NASA et la National Oceanic and Atmospheric Administration, donc l'administration nationale des océans et de l'atmosphère, annonce que nous sommes entrés dans une période de maximum solaire qui pourrait durer une année entière. Alors, rappelons que pour mesurer l'activité du Soleil, les chercheurs ont pris l'habitude de compter les taches qui apparaissent à sa surface, parce que ces taches, elles trahissent l'intensité de son activité magnétique. Et durant la période de maximum solaire, eh bien, les pôles magnétiques du Soleil s'inversent. Le nombre des taches solaires reste constamment élevé et augmente même encore pendant un temps, de quoi ouvrir la porte à plus d'éruptions solaires et donc à plus d'éjections de masse coronale. C'est un petit peu ça qui nous inquiète, parce que les astronautes vont donc suivre de plus près encore ce qui se passe du côté de ce Soleil, car ces éruptions et ces éjections de masse coronale peuvent avoir des effets sur la Terre. Elles peuvent provoquer l'apparition d'aurores boréales, jusque-là ça va. Ainsi, les mois qui viennent pourraient être propices à de beaux spectacles, et c'est un peu le bon côté de la chose. Cela a été le cas en mai dernier, si vous en souvenez, hein, il y a eu quand même pas mal de belles photos qu'on a pu voir avec la tempête géomagnétique la plus importante depuis une vingtaine d'années. Mais les tempêtes solaires, elles peuvent aussi perturber les signaux radio et les GPS, ou encore pousser nos avions à changer de cap, voire impacter nos réseaux électriques. Là aussi, hein, il est déjà arrivé par le passé que l'activité solaire affecte nos activités. Donc l'annonce de la NASA et de cette administration américaine ne signifie pas pour autant que le pic de l'activité solaire est atteint. Ce pic ne pourra sans doute être identifié avec certitude avant plusieurs mois. Ce que les astronomes savent toutefois d'ores et déjà, c'est que ce cycle 25 est légèrement plus actif que ce qu'ils attendaient. Jusqu'ici, l'éruption solaire la plus puissante de ce cycle s'est produit le 3 octobre dernier, hein, donc il y a un petit peu plus d'un mois. C'était une échelle qui s'arrête à 10. On avait atteint une éruption de classe 9, donc c'était quand même assez important, effectivement. Et donc voilà, on peut avoir des répercussions sur Terre avec des impacts inattendus. C'est ce qu'annonce donc la NASA. Le Soleil, lui aussi, il bouillonne finalement. On ne s'en sortira jamais. Allez, plusieurs petites informations qu'on va pouvoir feuilleter comme ça. D'abord, c'est tout article qui parle de Apple. La capacité à évaluer la distance des objets, elle est très importante pour de nombreuses tâches, que ce soit bien sûr au niveau de la robotique, au niveau des voitures autonomes, évidemment, ça peut être intéressant d'avoir une notion de distance, ou également dans tout ce qui concerne la réalité augmentée. Il existe en fait différentes méthodes pour y parvenir. La plus simple, en tout cas celle qui est quand même assez répandue, c'est l'utilisation de deux caméras pour avoir une vision stéréoscopique, ou alors aussi des capteurs de temps de vol. Toutefois, il y a donc des chercheurs de chez Apple qui ont publié il y a quelques semaines un nouveau modèle de fondation, une intelligence artificielle capable d'estimer la distance des objets à partir d'une simple image en deux dimensions. Donc une image en deux dimensions, par exemple une photo. Cette intelligence artificielle est baptisée DepthPro. Elle n'utilise aucune métadonnée des images pour parvenir à une modélisation en trois dimensions. Elle est présentée en tant que modèle de fondation pour l'estimation de la profondeur monoculaire métrique en zéro shot. Donc on n'a rien compris. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que DepthPro crée des cartes de profondeur qui vont permettre d'estimer la distance des objets dans une photo. En échelle absolue, c'est quand même assez fascinant d'avoir justement des cartes de profondeur à partir d'une carte plate, entre guillemets. Le modèle fonctionne avec des technologies totalement performantes qui permet de travailler à grande échelle pour une compréhension globale de l'image, puis de passer à une échelle plus petite pour trouver les bords des éléments plus complexes, comme les cheveux, la fourrure, les plantes par exemple. Cela permet une plus grande précision tout en limitant la puissance de calcul nécessaire. Parce que c'est ça aussi qui est l'enjeu de ce genre de technologie, c'est que ça bouffe beaucoup d'énergie dans le sens où ça quand même turbine pas mal pour essayer de parvenir à un résultat. Là, en tout cas c'est ce qui est annoncé chez Apple, on est dans l'idée d'avoir quelque chose d'assez performant, mais qui n'aurait pas un impact vraiment important en termes de consommation d'énergie et en termes de temps également, parce que du coup, le calcul qui est nécessaire à cela serait dans un temps plutôt réduit. Pour une fois, Apple a publié le code source sous licence libre, ce qui permet à n'importe qui de l'utiliser et de le modifier. Donc vous pouvez le regarder, essayer de, si vous souhaitez un petit peu voir ce dont il s'agit, si vous êtes un petit peu des adeptes de ce sujet-là, vous avez la possibilité de pouvoir travailler avec. Et vous pouvez également, vous pouvez voir des démonstrations de ce DevPro sur certains sites internet. Ça vous permet de voir justement un petit peu l'efficacité et donc quelque part ensuite l'utilité de ce genre de nouvelles technologies. C'est assez fascinant et assez intéressant bien sûr de voir cela. Voilà, c'est Biotine que vous écoutez sur l'antenne de Graphite. Un peu de science et puis un peu de musique aussi hein, pour cette émission. On va se faire plaisir aujourd'hui et on va écouter Rodrigue sur l'antenne de Graphite et on continue ensemble à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique.
Laisse-moi aimer les gays, les hétéronormes et transgender fluides, bi ascendant bélier. Moi je suis rien phobe, moi je suis rien phobe. Juste laisse-moi aimer, laisse-moi aimer le trash et la contre-culture, accueillir la vertu, toutes les paraphilies tordues. Laisse-moi aimer les fachos qui ont bien besoin d'être aimés. Laisse-moi aimer pour changer, laisse-moi aimer le monde entier. Je veux imaginer Sisyphe heureux de faire tourner ce rocher qui ne sait plus qu'il savait en chemise à fleurs. Sans moi inné, j'suis toutes les clés. Zébré, rayé, gribouillé, à jamais en free chantage. Mais je tâche d'en faire une armée. Entre le fuck et le love, y'a tout le monde. Tu le sais, tant de cases à brûler. Rien fuck, c'est comme ça qu'on est né. Avant d'être différent des semblables, on était sans case, sans cage, sans gage, sans rage. Des yeux étoilés, moi j'suis rien phobe, moi j'suis rien phobe. Laisse-moi
Rien Fob, c'était Rodrigue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis 12h, entre 12h et 13h, Biotine, l'émission d'actualité scientifique. Pour vous tenir informé de l'actualité scientifique, vous avez donc Biotine. Vous avez aussi la possibilité alors, de pouvoir parcourir des sites internet qui sont plutôt bien faits. Futuration, c'est vraiment bien fait pour cela, parce que c'est des articles qui parlent de différents sujets scientifiques d'une façon totalement vulgarisée et vraiment intéressante. Et puis vous avez aussi la presse écrite, bien sûr, Science et Vie, Science et Avenir, entre autres, qui propose des petites brèves. Donc j'ai un petit peu pioché dans ces revues de vulgarisation scientifique qui nous explique que les roses n'ont pas d'épines, mais des aiguillons. Faut plus dire que les roses ont des épines, hein, parce que ça n'est pas le cas, ce sont des aiguillons. Cette précision a été apportée par un consortium international qui vient de dévoiler dans la revue Science le gène qui est à l'origine de ces excroissances de l'épiderme des plantes. Il existe en effet deux systèmes physiques de défense, c'est ce que rappelle Mohamed Bendarman, qui est le directeur de recherche à l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'INRAE, et qui est donc le co-auteur de cette étude. Les aiguillons sont des excroissances de l'épiderme et peuvent donc être enlevées facilement, tandis que les épines sont des feuilles ou des tiges modifiées qui prendront cette apparence. Ainsi, outre les aubergines et les tomates, eh bien les rosiers sont dotés d'aiguillons et non pas d'épines, qui sont l'apanage des citronniers, de l'aubépine ou encore des ajoncs, nous dit-on. L'équipe a donc cherché à localiser plus précisément l'emplacement du gène responsable de la formation de ces aiguillons. Notamment, ils ont travaillé dans le génome de l'aubergine et dans le génome du rosier. Et ils ont pour cela comparé les génomes d'aubergines hybrides, domestiquées et sélectionnées pour ne plus posséder d'aiguillons, avec le génome d'aubergines sauvages qui ont gardé leur défense. Effectivement, je ne savais pas que les aubergines sauvages avaient des aiguillons. Et par recombinaison des biomarqueurs, ils ont pu ainsi restreindre la zone du génome où se trouve le responsable de la formation de la défense, un gène qu'ils ont baptisé LOG, dont on connaissait l'existence, mais pas le rôle dans le développement des aiguillons. Et les études génétiques menées sur les rosiers ont permis de confirmer la localisation. Donc ces recherches pourrait déboucher sur des découvertes intéressantes l'agriculture. L'une des caractéristiques de la domestication des plantes, hein, c'est justement la perte de leur défense. L'humain n'a que faire de ces parties piquantes et les a systématiquement éliminées par sélection. Mais on ne connaît rien des conséquences de la perte de ce gène qui s'appelle LOG. Et il est possible que l'on mette en péril des espèces d'intérêt agronomique, hein, c'est ce que déplore ce chercheur de l'INRAE qui travaille notamment du côté de la région lyonnaise. Mais voilà, c'est une nouvelle qu'on n'avait pas perçue et que l'on peut voir dans un article de Science et Avenir. Alors d'autres petites brèves qu'on a dans Science et Avenir, c'est les pesticides qui s'infiltre dans la chair des pommes. Rincer les pommes, c'est ce que l'on fait tous, eh bien, ça ne suffirait pas à éliminer les résidus de pesticides qui sont présents sur la peau du fruit, parce que à l'aide d'une nouvelle méthode d'analyse, il y a une équipe chinoise qui est parvenue à identifier des traces de pesticides dans la couche de pulpe la plus externe de fruits sur lesquels avaient préalablement été pulvérisés deux pesticides. Il y a des traces qui ont été trouvées dans la chair des fruits à moins d'un demi millimètre de la peau. Donc ça s'infiltre bien dans la chair. Et donc, si on veut enlever le maximum de pesticides, non, ce n'est plus manger de fruits, ce n'est pas la raison. C'est en fait de peler les pommes d'une façon un petit peu plus profonde. En fait, c'est l'une des d'une des consignes qui est donnée notamment. Autre chose aussi qu'on a comme des petites brèves, je ne retrouve plus, si voilà, c'est, je suis en train de chercher ces deux frères qui ont été célébrés pendant les Jeux Olympiques et qui font du ping-pong, le nom m'échappe, les frères Lebrun, je crois c'est ça. Eh bien, il y a un robot plus précisément un bras articulé doté d'une raquette qui s'est mesuré à des joueurs humains. L'algorithme de la machine a été entraîné par une phase d'apprentissage par renforcement dans un univers simulé. En fait, l'idée, c'était de reproduire plus de 17 000 trajectoires de balles ayant réellement eu lieu. Donc, cet algorithme a pris en compte toutes ces trajectoires qui existent. 17 000 trajectoires, ça fait quand même pas mal. Et au cours du jeu, eh bien, le robot suit son adversaire grâce à des caméras de capture de mouvement. Et résultat, il y a eu 13 victoires sur 29. Il a battu tous les débutants, mais pas encore les professionnels, hein, ce robot. Plus fort que les débutants au ping-pong. Il y a des vidéos que vous pouvez trouver, je pense que vous pouvez voir sur Google, il me semble, parce que c'est lié à, comment dire, le laboratoire Google DeepMind, mais il y a des vidéos qu'on peut voir pour ce robot. Alors c'est vraiment, c'est un bras articulé, hein. On ne nous attendait pas à un robot humanoïde, c'est pas du tout le but, mais c'est vrai qu'il se débrouille pas mal au niveau du ping-pong, c'est assez intéressant. Voilà, donc c'est des petites brèves, hein, que vous pouvez trouver avec des choses assez, assez abordables et qui permettent, voilà, d'aborder un petit peu tous les sujets scientifiques. C'est tout l'intérêt de ce genre de revue, bien évidemment. Donc je ne peux que vous inciter à vous les procurer, à les feuilleter. On a parlé la semaine dernière, on a eu donc cette émission la semaine dernière, assez complexe fatalement, hein, c'est toujours une fois par an. C'est l'émission qui parle des prix Nobel, qui ont été donc attribués il y a quelques jours, hein, c'était il y a maintenant un mois à peu près. Et bon, on a donc évoqué quels avaient été les prix Nobel et surtout ce qui était intéressant, c'est sur quel sujet de recherche. Il y a en même temps, eh bien, les IG Nobel ou les Ig Nobel, hein, j'ai jamais su comment on devait le dire. C'est un petit peu la parodie de ces très sérieux prix Nobel. Les IG Nobel ou les Ig Nobel récompensent des recherches insolites, mais tout aussi utiles à la science. C'est à la fois de l'humour, mais aussi de l'originalité. Hein. C'est un petit peu la marque de fabrique de cet événement. Et avec des découvertes assez intéressantes qui ont pu être menées. Donc, ça a été... déclaré, en tout cas le palmarès a été dévoilé en septembre, à un mois des vrais Nobel, hein, c'est-à-dire qu'ils font un petit peu ils font pas ça en même temps, ils ont un certain respect pour les vrais prix Nobel. Et donc la question c'est, mais qu'est-ce qui a été récompensé? Alors voilà, il y a pas mal de petits sujets assez originaux, notamment le prix de physiologie qui est allé à une équipe nippo-américaine qui a découvert que de nombreux mammifères pouvaient respirer par l'anus. On savait déjà que les loches, qui sont une espèce de poisson, étaient capables de respiration intestinale. Eh bien, les chercheurs ont démontré que c'était aussi le cas des souris, des porcs et des rats, suggérant que l'intestin pourrait être utilisé comme un organe respiratoire accessoire. Alors, bien sûr, le fait de respirer par l'anus, ça interpelle toujours, mais là, derrière, on a bien quand même... c'est le titre, c'est le mot approprié, mais quelque part, on voit toujours que ça peut avoir des débouchés assez intéressants en termes de recherche. Le Ig Nobel de la paix a été attribué au psychologue américain Fred Skinner, qui est décédé aujourd'hui, pour avoir placé des pigeons dressés dans le nez de missiles afin de les guider pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce projet pigeon a été abandonné en 1944 malgré un essai apparemment réussi sur une cible dans le New Jersey. Enfin, quand même, me demander quel est l'intérêt d'avoir des pigeons pour guider les missiles, mais bon, ça date quand même de la guerre, mais on a voulu le récompenser cette année. Le prix de botanique, lui, a récompensé une recherche ayant montré que certaines plantes imitent la forme de plantes en plastique à proximité. L'hypothèse des chercheurs, c'est que la bokila, hein, la plante en question, c'est une espèce de liane d'Amérique du Sud, eh bien, cette liane a, je cite, une sorte d'œil qui peut voir. Alors, comment font-elles? On n'en avons aucune idée, c'est ce qu'explique Felipe Yamashita du Université de Bonn en Allemagne, qui a donc été récompensée par ce prix de botanique. Mais voilà, elles sont capables d'imiter la forme de plantes en plastique qui sont à côté d'elles. C'est quand même assez troublant, bien évidemment. Des chercheurs ont remporté le prix de probabilité pour avoir lancé en l'air plus de 350 000 fois des pièces. Inspirés par un magicien, ils ont montré que le côté qui fait face vers le haut avant de le lancer gagne dans environ 50,8% des cas. Quand même le faire. Et donc, ils ont quand même passé 81 jours à retourner des pièces. Et l'équipe a dû utiliser des pistolets de massage pour soulager leurs épaules douloureuses, nous dit-on, dans le communiqué de ces Ig Nobel. Oui, est-ce qu'il y avait un intérêt de lancer 350 000 fois une pièce pour démontrer qu'on arrivait à une probabilité de 50,8%, donc après moitié-moitié à peu près? On se posera encore la question. Le prix de la démographie, cette fois, a récompensé une étude montrant que de nombreuses personnes célèbres pour leur longévité vivent dans des endroits ayant des registres de naissance et de décès de piètre qualité. Le vrai secret de la longévité est de déménager dans un endroit où les certificats de naissance sont rares, apprendre à vos enfants la fraude aux pensions et commencer à mentir. C'est ce qu'a donc lancé le lauréat australien Sir Justin Newman, qui a donc été récompensé par le prix de la démographie. Bon, chacun pensera ce qu'il voudra de cette information. Le prix de chimie, lui, a été décerné à une équipe qui a utilisé une technique complexe qu'on appelle la chromatographie pour séparer des vers, donc des vers comme des vers de terre, des petits vers, des vers ivres et des vers sobres. Les chercheurs ont fait une démonstration sur la scène que vous pouvez voir sur Internet, sur cette cérémonie des ignobels. Eh bien, les chercheurs, ils ont fait une démonstration en reconstituant une course entre un ver sobre qui était teint en rouge et un ver ivre qui était en bleu, et le ver sobre a gagné. Nous dit-on bravo, quel est l'intérêt? Pour l'instant, on ne le sait pas. L'équipe franco-chilienne lauréate du prix d'anatomie s'est intéressée au tourbillon que forment les cheveux poussant au sommet du crâne. Chez la plupart des gens, ils poussent dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est ce qu'a découvert cette équipe. Et dans l'hémisphère sud, les tourbillons dans le sens inverse sont cependant plus courants. Oui, bon ben voilà, ok, très bien. Ça va pas nous sauver un petit peu le monde, mais enfin ça peut être intéressant de placer ça dans une conversation par exemple. Le prix de médecine lui a récompensé une équipe européenne qui a montré que les placebos, hein, c'est les traitements sans principe actif qui sont utilisés notamment dans des études médicales, c'est-à-dire que quand on veut utiliser un médicament, on a toujours des gens qui vont tester ce médicament et d'autres personnes qui vont tester un placebo, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils testent ce médicament, mais en fait non, il n'y a aucun effet actif. Pour avoir comme un groupe témoin quelque part, eh bien les traitements, les placebos étaient plus efficaces s'ils provoquaient des effets secondaires douloureux. Alors là, c'est quand même assez étonnant parce que quelque part, la machine se renverse bien évidemment sur ces effets secondaires de placebos qui n'ont pas de principe actif. Donc il y a un moment, peut-être la psychologie joue peut-être dans ce sujet-là parce que c'est assez troublant bien sûr. Le prix de physique a été attribué à James Liao pour avoir, je suis démontré, expliquer les capacités de nage d'une truite morte. J'ai découvert qu'un poisson vivant bougeait plus qu'un poisson mort, c'est ce qu'il a déclaré. Oui, effectivement, la nage du poisson mort lui a permis d'avoir le prix de physique. Enfin, le prix de biologie a été décerné à Fordyce Ellie et William Peterson pour une expérience particulièrement étrange qui a été menée en 1941 aux États-Unis. Ces deux scientifiques qui sont aujourd'hui décédés, ils ont été récompensés quand même, ils avaient fait éclater un sac à côté d'un chat perché sur le dos d'une vache pour explorer comment et quand ces vaches expulsaient leur lait. Attends, on va réécouter parce que je vais relire parce que j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait éclater un sac à côté d'un chat perché sur le dos d'une vache. L'idée, c'était de savoir quand et comment les vaches expulsaient leur lait. Voilà. Bon, bah, très bien. C'est une vraie expérience qui était menée aux États-Unis en 1941. Ça leur a permis, maintenant ils sont morts, ils l'ont pas vécu, mais en tout cas ils ont eu le prix Ig Nobel de biologie, effectivement. C'est toujours cocasse de voir cela et d'entendre un petit peu ces choses. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est ça aussi la science. Allez, on écoute un peu de musique, parce qu'il y a un moment, ça devient un peu n'importe quoi. Amnésie internationale de Gavroche sur l'antenne de Graphite.
Amnésie internationale. Amnésie internationale.
Je suis venu en France le jour de ma naissance, le ventre de ma mère, ma première résidence. À peine je poussais mon premier cri, on m'a dit
hey, toi, t'es pas d'ici.
Elle avait pris soin de m'offrir un prénom qui ne rime ni avec Marc-Olivier ni Raymond, mais qui avait l'accent bien accroché à la Méditerranée. Mes parents étaient majeurs depuis longtemps, mais n'ont pas eu l'indépendance à 18 ans. À peine on t'écrit, l'étranger,
on oublie vite. Amnésie internationale. Certains hommes s'excitent à toujours vouloir faire le mal. On oublie vite. Amnésie internationale.
La Au paradis, y a pas d'ange de couleur. Et le chat noir porte malheur. À la télé, l'esclavage mental. Je dis de vous méfier de Faïsal. Dans les quartiers, c'est Sodome et Gomorre. Des terroristes dans les cages de la mort. On nous accuse de tous les maux de la terre. C'est la nouvelle chasse aux sorcières. Mais non, je ne suis pas parano. Y'a qu'à lire les journaux. Car
Amnésie internationale.
Internationale. Y en a marre des expressions, racaille ou bien sauvageon. Nous avons bien compris, la différence n'a pas de prix. Pas besoin d'être Jérémy pour deviner le sort qui nous est promis. Qu'on soit premier, dernier de la classe, on n'aura jamais notre place. Je suis venu en France le jour de ma naissance. Mon grand-père m'enseigna ma première résistance. Paix, amour et connaissance, telle était son unique défense.
Paix, amour et connaissance,
telle était son unique défense.
Amnésie internationale. Amnésie internationale. Amnésie internationale. Amnésie internationale. Amnésie internationale. Amnésie internationale. Amnésie internationale.
Amnésie internationale, c'était Gavroche sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. Alors, pas mal de petits sujets encore là dans cette émission d'aujourd'hui. Et on va partir dans l'Everest. Alors, c'est un peu morbide cette information, mais elle peut être assez intéressante. On a retrouvé un pied solitaire, gelé dans les glaces donc de la plus haute montagne du monde. Ce pied solitaire reposait sur les flancs du glacier Rongbuk, sur la face nord du mont Everest. C'est donc une découverte quelque peu morbide, mais prometteuse pour le réalisateur Jimmy Chin et les équipes de National Geographic, parce que s'il y a de nombreux corps qui jalonnent le chemin vers le sommet de l'Everest, ce pied est particulièrement important parce qu'il pourrait appartenir à l'alpiniste Andrew Cummins. Sandy Irvine. Ce dernier, il accompagnait le Britannique George Mallory pour atteindre les 8849 mètres d'altitude. Et il meurt lors de cette funeste expédition lancée en 1924. Parce que lorsque l'explorateur George Mallory se lance dans l'ascension du mont Everest, nous sommes le 6 juin 1924, le sommet n'a pas encore été conquis. L'objectif a une portée scientifique, mais se range aussi dans la lignée des accomplissements des sociétés savantes britanniques entre le 19e et le 20e siècle. Le Népal, c'est à ce moment-là un royaume enclavé, cloisonné, inaccessible aux étrangers, et l'équipé doit transiter par le Tibet. Il y a plusieurs tentatives qui avaient déjà été menées depuis 1922 sans succès. Et donc l'expédition de 1924 implante son camp de base à 5400 mètres d'altitude et installe progressivement de nouveaux camps, le dernier étant positionné à 7000 mètres. Il y a donc 12 hommes, dont Mallory et Irvine, ainsi que plus de 60 porteurs qui ont rejoint l'aventure. On est donc le 6 juin. Les conditions météorologiques sont changeantes lorsque Mallory et Irvine quittent le camp 4 après deux essais les jours précédents. Les deux explorateurs sont bien plus faiblement équipés qu'aujourd'hui. Si les vêtements en laine pouvaient permettre aux alpinistes de survivre s'ils restaient en mouvement, des arrêts prolongés auraient sûrement provoqué une hypothermie rapide. Cette troisième tentative présentait de nombreux risques multipliés par le manque de bouteilles d'oxygène. Et donc Mallory et Irvine ne descendront jamais vivants et le corps de Mallory ne sera découvert sur l'Everest qu'en 1999, donc 75 ans après. Et il est impossible de déterminer si les deux hommes ont réussi à atteindre le sommet ce jour-là. Il y a des relevés météorologiques qui laissent entendre que des intempéries violentes se seraient abattues sur la montagne himalayenne. Les températures, elles peuvent alors chuter juste en dessous de moins 40 degrés Celsius. On ne se rend même pas compte de ce que ça peut donner, moins 40 degrés. Il y a même des vents qui soufflent entre 50 et 60 km par heure. Et donc, ça n'arrange pas les choses. Et passé 8000 mètres, les alpinistes atteignent ce qu'on appelle la zone de la mort. Au niveau de la mer, le pourcentage d'oxygène dans l'atmosphère atteint 21%. Et quand on est à 8200 mètres, il n'est que de 7,5%. Et il y a donc des symptômes de mal aigu des montagnes qui apparaissent dans de nombreux cas, ce qui va provoquer des œdèmes cérébraux ou des œdèmes respiratoires. Et les raisons de la mort de Mallory et d'Irvine sur l'Everest sont donc multiples. Alors la première ascension réussie, elle aura lieu en 1953 lors d'une ascension menée par Edmund Hillary et Tenzing Norgay. Et la communauté scientifique a toujours évoqué la possibilité que Mallory et Irvine aient été les premiers à découvrir le toit du monde. Une façon donc de le prouver serait de retrouver le boîtier emporté par Irvine lors de la troisième tentative. Les deux alpinistes auraient ainsi pu photographier une arrivée au sommet. Et depuis plusieurs années, eh bien National Geographic pilote des missions pour tenter de retrouver cet appareil. Et donc, retrouver ce pied d'Irvine, ça instille un petit peu l'espoir. Hein. Le reste de son équipement pourrait bien se situer dans le secteur et permettre donc enfin de résoudre l'un des plus passionnants mystères de ces 100 dernières années, de savoir qui a conquis le sommet de l'Everest en premier. Et donc ce pied, il n'y a qu'un seul pied gelé, vieux de 100 ans, qui a donc été retrouvé ça va peut-être apporter une réponse à cette question de savoir qui était là-bas le premier. Quand j'ai vu cet article sur, je crois, le site de Futura Science, il me semble, on a même la photo de ce pied avec la chaussure. Enfin, c'est quand même totalement morbide. Mais bon, si vous aimez la morbidité, je ne peux que vous inciter à regarder les sites internet qui parlent de cela. Allez, quand vous êtes à table, je vous souhaite un bon appétit. C'est vraiment le très bon moment pour vous parler de cette étude qui a été publiée dans la revue Frontiers in Microbiomes. Il y a donc une équipe de l'université de Northwestern. C'est dans l'Illinois, nous sommes aux États-Unis. Cette équipe a analysé des échantillons provenant de brosses à dents usagées et de prélèvements effectués sur des pommeaux de douche. Les chercheurs ont identifié plus de 600 virus différents, chaque échantillon présentant une composition unique. Alors rassurez-vous, ces virus ne ciblent pas les humains, mais les bactéries. Hein. Il s'agit en fait de ce qu'on appelle des bactériophages. Ce sont des virus qui infectent et se répliquent à l'intérieur des bactéries. Alors ils sont peu connus, hein, mais ces bactériophages suscitent un intérêt croissant pour leur potentiel dans le traitement des infections bactériennes résistantes aux antibiotiques. Pardon, excusez-moi. Le nombre de virus que nous avons trouvé est absolument stupéfiant, c'est ce que déclare Erika Hartmann, qui est donc la chercheuse principale de cette étude. Je cite « Nous avons découvert de nombreux virus dont nous savons très peu de choses et beaucoup d'autres que nous n'avions jamais vus auparavant. C'est incroyable de constater l'ampleur de la biodiversité inexploitée qui nous entoure et juste sous notre nez. » Je parle là de brosse à dents et de pommeau de douche, hein, c'est vraiment dans notre quotidien. Les chercheurs ont ainsi noté une prévalence de ce qu'on appelle les mycobactériophages, c'est des virus qui infectent les mycobactéries responsables de maladies telles que la lèpre, la tuberculose, les infections pulmonaires chroniques. Et donc, cette découverte pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour le traitement de ces infections. Donc, ça serait vraiment très intéressant d'en savoir un petit peu plus. Les microbes sont partout et la grande majorité d'entre eux ne nous rendront pas malades. Hein, c'est ce qu'elle explique toujours Erika Hartmann. Plus on les attaque avec des désinfectants, plus ils risquent de développer une résistance et de devenir plus difficiles à traiter. Nous devrions tous les accepter. Et donc la chercheuse déconseille donc l'utilisation excessive de désinfectants qui pourraient favoriser le développement de résistance. Et à la place, elle recommande des méthodes d'entretien simples comme le nettoyage des pommeaux de douche avec du vinaigre ou du savon et le remplacement régulier des têtes de brosses à dents, nous dit-on. Mais donc cette étude qui révèle que les virus pullulent sur les brosses à dents et les pommeaux de douche, mais bon, ça pourra offrir de nouvelles perspectives très intéressantes en médecine, donc après tout, pourquoi pas, ça peut être totalement utile, bien sûr. Autre petite information, vous avez peut-être découvert ce qu'on appelle le breakdance à l'occasion des Jeux Olympiques. et on s'est aperçu que les danseurs, les breakdancers, sont particulièrement sujets aux blessures en raison de la complexité et des exigences physiques pour réaliser leurs mouvements. Alors bien sûr, il y a des entorses, des foulures, des tendinites qui sont courantes. Eh bien, il y a des blessures plus graves de la tête et au cerveau, comme notamment des hématomes, qui ont également été rapportés. Il y a une figure particulièrement impressionnante dans la pratique du breakdance qui ne serait pas sans risque. C'est ce qu'on appelle le head spin. C'est un mouvement qu'on voit tous, hein, où le danseur, la danseuse se tient en équilibre sur la tête tout en tournant le long de l'axe vertical de son corps. On a tous vu cette figure-là. Eh bien, la pratique prolongée peut entraîner une perte de cheveux, ok, une irritation du cuir chevelu, pourquoi pas, et peut-être davantage. Dans le British Medical Journal, il y a des chercheurs qui rapportent le cas d'un homme d'une trentaine d'années qui pratique le breakdance depuis plus de 19 ans et qui souffre d'une tumeur au cuir chevelu. Et malgré l'apparition d'une bosse sur son crâne et une perte de cheveux, eh bien, il a continué à enchaîner les figures jusqu'à ce que la protubérance grossisse de manière significative et que son cuir chevelu ne devienne trop douloureux. Et un scanner a révélé un épaississement de la peau, des tissus et du crâne autour de la bosse, sans signe d'une potentielle pathologie comme le cancer, hein, mais en tout cas assez importante. Et on a donc enlevé par chirurgie cette protubérance et le patient a pu retrouver une vie sociale normale sans avoir à dissimuler son problème sous une casquette. Hein, c'est ce qu'expliquent les auteurs. Alors là, on est bien sûr sur un cas isolé, mais en tout cas, les auteurs soulignent l'importance de reconnaître les affections chroniques du cuir chevelu chez les breakdancers. Ils suggèrent que l'intervention chirurgicale pourrait être un traitement efficace. Mais voilà, si vous faites du breakdance, faites attention parce que ça peut provoquer des hématomes et beaucoup plus des choses beaucoup plus sérieuses, bien évidemment. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est un sport, c'est dangereux. On ne s'en rend même pas compte, malheureusement. Allez, on continue à écouter un peu de musique et on terminera cette émission sur l'antenne de Graphite. Talent Stick, c'était Surprise Chef sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. Vous nous suivez, vous nous écoutez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et Graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet en direct ou en différé grâce au podcast. J'étais en train de chercher un petit peu, j'ai tellement d'articles que je devais évoquer pour vous que j'essaye de trouver des articles qui ont une certaine cohérence entre eux. Alors, on va faire une petite thématique archéologie, pardon, parce que, excusez-moi, oh, je suis vraiment désolé, ça va être assez compliqué. Découverte donc archéologique, il y a deux sujets qui sont assez intéressants. Donc le premier, on va partir en Andalousie, terre de vestiges antiques, hein, qui nous livre un nouveau trésor archéologique. Il y a une équipe de chercheurs espagnols qui a récemment dévoilé la découverte d'une balle en plomb portant le nom abrégé de Jules César. Cet artefact qui est daté de l'époque romaine soulève de nombreuses questions sur la présence de Jules César en Espagne et sur les alliances qui se nouaient alors dans la région. Alors si on examine de plus près cette trouvaille exceptionnelle et ses implications sur notre compréhension de l'histoire romaine en péninsule ibérique, eh bien on a des informations assez intéressantes. La balle en plomb, qui est donc une véritable capsule temporelle, a été découverte dans la campagne de Montilla, c'est la province de Cordoue, en Andalousie. Et ce projectile antique présente des caractéristiques assez intéressantes. Il a une espèce de forme de gland avec des extrémités pointues, qui fait quand même 4,5 cm de long, pèse plus de 70 grammes, et il y a deux inscriptions qui sont gravées dessus. Il y a KS, C-A-E-S, et IPSCA. Alors l'inscription KS, ça fait directement référence à Jules César, et IPSCA, ça désigne une cité ibéro-romaine de la région. Et donc cette double mention donne à l'objet une valeur historique inestimable parce que ça témoigne des liens entre le général romain et cette ville antique. La découverte a été étudiée par une équipe de chercheurs de l'Université de Madrid et du Musée archéologique de Cabra, et leurs travaux ont été publiés dans la revue Zephyrus, qui ont rapidement attiré l'attention de la communauté scientifique internationale, parce que cette balle en plomb nous plonge au cœur de l'expansion romaine en péninsule ibérique. À l'époque de Jules César, Rome cherchait à consolider son emprise sur cette région stratégique, et donc la présence de cette balle en plomb soulève plusieurs hypothèses: la confirmation de la présence de César en Espagne, la preuve d'une alliance entre IPSCA et la faction de Jules César, et ça donne aussi un témoignage des conflits militaires dans la région. Le contexte historique de cette découverte est primordial. La péninsule ibérique était alors le théâtre de luttes de pouvoir entre différentes factions romaines. César, engagé dans une guerre civile contre Pompée, cherchait à s'assurer le soutien des cités locales. Et malgré l'importance de cette découverte, il y a de nombreuses interrogations qui persistent. Les chercheurs s'efforcent de reconstituer le puzzle historique autour de cet artefact. Alors, quelles étaient les circonstances exactes de l'utilisation de cette balle ? La présence de César en personne à IPSCA est-elle avérée ? Et quel était le rôle précis d'IPSCA dans les stratégies militaires romaines ? Alors ces questions alimentent les débats au sein de la communauté scientifique. Les archéologues et les historiens poursuivent leurs investigations. Ils espèrent mettre au jour de nouveaux indices qui permettraient d'éclaircir ces zones d'ombre. Et donc la découverte de cette balle en plomb s'inscrit dans un effort constant de compréhension de l'histoire antique. Chaque nouvel artefact contribue à affiner notre perception des dynamiques politiques et militaires qui ont façonné l'Empire romain et ses provinces. Et au-delà de la valeur historique, cette découverte représente un atout majeur pour la recherche archéologique en Espagne, parce qu'elle souligne l'importance de préserver et d'étudier le riche patrimoine antique de la péninsule ibérique. Les musées locaux jouent un rôle bien sûr crucial dans la conservation et la valorisation de ces trésors du passé, et le fait de pouvoir collaborer avec des universités, ça permet de faire progresser la connaissance historique tout en ayant une action de sensibilisation du public à l'importance de l'héritage romain en Espagne. Et donc, on va poursuivre un petit peu les recherches, essayer d'en savoir un petit peu plus. Mais cette balle en plomb, vous pouvez voir des photos également sur différents articles, c'est un mystère historique. Ça apporte des informations, ça soulève d'autres questionnements. Donc, on n'a pas encore le fin mot de l'histoire, et quelque part, tant mieux, bien évidemment. Mais voilà, ça se passe en Espagne et en France. Alors, vous avez peut-être entendu parler de cela, parce que ça a quand même assez fait parler il y a quelques semaines. La dépouille du célèbre poète Joachim du Bellay aurait été récemment identifiée dans un cercueil en plomb qui a été retrouvé en avril 2022 lors des fouilles menées par l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, hein, l'INRAP. Ces fouilles étaient menées après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris en 2019. Et donc, on a retrouvé ce cercueil en avril 2022. Il y a eu des analyses qui ont été effectuées à l'Institut médico-légal du Centre hospitalier universitaire de Toulouse. Ces analyses ont permis d'émettre l'hypothèse de cette identification. Outre la déformation de l'os coxal, le crâne scié, le sternum fracturé, eh bien, qui témoigne d'un cavalier confirmé autopsié avant son embaumement, il y a eu des traces d'une pathologie chronique extrêmement rare qui ont participé à l'identification du squelette. Il s'agit d'une tuberculose osseuse cervicale dont le poète présentait les symptômes dans les dernières années de sa vie. La tuberculose osseuse cervicale, qui est également correspond à l'atteinte tuberculeuse des deux premières vertèbres cervicales ainsi que de leurs articulations, c'est une localisation rare de la tuberculose osseuse. C'est une pathologie infectieuse causée par une bactérie et qui touche essentiellement le rachis dorso-lombaire. Et son diagnostic est le plus souvent tardif, ce qui expose à des complications potentiellement graves, parce qu'en effet, son caractère un peu infectieux peut entraîner une inflammation des méninges basilaires, c'est-à-dire les membranes qui enveloppent le système nerveux central. Et donc, ça peut entraîner une méningite chronique dans des cas appelés méningite tuberculeuse. Donc, la présence d'un nodule tuberculeux peut causer la thrombose d'un gros vaisseau cérébral et donc causer un AVC, un accident vasculaire cérébral, et ce dont est probablement décédé le poète Joachim du Bellay. Alors cela s'est passé il y a près de 5 siècles. La tuberculose persiste de nos jours et à l'échelle mondiale, elle est la deuxième cause de mortalité due à une maladie infectieuse derrière la Covid-19 et avant le sida, nous dit-on dans cet article. Alors, qui est Joachim du Bellay ou Joachim du Bellay, hein, je n'ai jamais su précisément comment on devait l'appeler. On va dire que c'est Joachim du Bellay. C'est un poète français né en Anjou vers 1522. Il est le cofondateur avec Pierre de Ronsard de la Pléiade. C'est un groupe de poètes et un mouvement littéraire au nom duquel il a rédigé le manifeste Défense illustration de langue française. Il est également célèbre, hein, Joachim du Bellay, pour son recueil de sonnets Les Regrets. Et il est mort donc d'une apoplexie à Paris dans la nuit du 1er au 2 janvier 1560. Il avait 37 ans. Et donc, lors de ces fouilles archéologiques menées sur le site de Notre-Dame, eh bien, on aurait donc récemment, découvert, identifié Joachim du Bellay lorsqu'on aurait donc trouvé son squelette. Et voilà, l'exercice médico-légal montre qu'il aurait été victime d'une pathologie rare ayant probablement causé sa mort. Vous avez peut-être entendu parler de ça, du fait qu'on avait retrouvé les traces de Joachim du Bellay. Voilà, c'était les deux informations d'ordre archéologique dans cette émission. On touche un petit peu à tout, hein, vous voyez, dans cette émission Biotine sur l'antenne de Graphite, des sujets plus ou moins cocasses, plus ou moins sérieux. C'est la science, que voulez-vous, sur tous les sujets scientifiques. Je vous retrouve pour la rediffusion, c'est mardi matin à 10h, bien sûr. Sinon, je vous retrouve samedi prochain à 12h pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. J'espère que j'aurai retrouvé ma voix d'ici là, mais je pense que c'est mal parti apparemment. Mais d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous et continuez à rester fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite. On se retrouve donc samedi prochain sur l'antenne de Graphite, 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet, bien évidemment. Et c'est tout tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, bien évidemment. N'hésitez pas voilà, à pouvoir continuer à suivre l'actualité de Graphite sur tous les réseaux. Il y a la page Facebook, la page Instagram et puis le site internet, bien évidemment. Samedi prochain, on continuera à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique, bien sûr, sur l'antenne de Graphite. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée et on se retrouve samedi prochain. À bientôt, au revoir.